Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Dieu n'aura jamais besoin d'une main pour l'aider à faire ce qu'il veut faire. C'est lui qui appelle à l'existence les choses et qui leur donne des principes et des lois. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. C'est lui qui, avant le temps, il était, et c'est lui qui, après le temps, continuera d'exister. Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui règne d'âge en âge. Quand le dernier des présidents, le dernier des rois aura cessé d'exercer son autorité, lui, il restera sur son trône. Il s'entoure de la gloire comme d'un manteau. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il dit qu'une chose arrive et la chose est. Rien ne peut résister à sa volonté. Il abaisse les forts. Il prend les faibles et les indigents, les fait asseoir avec les grands. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Et un jour, nous te verrons face à face. Comme l'apôtre dit, nous te connaîtrons comme nous-mêmes avons été connus. Et en ces jours-là, nous jetterons nos trônes devant tes pieds. Et nous dirons, toi seul, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Je soupire en attendant ces jours. Seigneur, il y a bien des choses que j'accepterais de manquer. Manquer au plus grand banquet offert par le plus grand homme, manquer à la plus grande réception avec le couvert le plus exquis, le plus merveilleux, manquer à toutes ces choses, mais ne pas manquer à ces rendez-vous qui viennent bientôt. Car la Bible dit que bientôt la trompette va sonner. Et à la voix d'un archange et au son de cette trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous serons enlevés. Et nous resterons avec toi d'éternité en éternité. Et en attendant ces jours, s'il te plaît, Seigneur, permets que par la folie de la prédication, que quelqu'un soit ajouté à ce nombre de ces gens qui attendent cette bienheureuse espérance. Et si tu veux le faire au travers de ce message que ce faible instrument enclin à la faiblesse veut ou va essayer d'apporter tout à l'heure, nous ne manquerons pas de te bénir. Que tout l'honneur soit pour toi, la gloire aussi, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Si vous voulez en ces jours lire avec moi ces deux passages dans la parole de Dieu, le premier est tiré du psaume 8, psaume chapitre 8, et nous partons du 4e au 7e verset, psaume 8, 4 à 7. Et nous lirons aussi Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 31. Genèse 1er, 26 à 31. Nous commençons par psaume 8, versets 4 à 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Genèse 1er. Versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre à tout oiseau du ciel, et à tout animal plutôt, de la terre à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Je me rends en ce jour, et Dieu voulant aussi dimanche prochain, nous et vous entretenir sur le thème l'homme, sa vocation et sa destinée. L'homme, sa vocation et sa destinée. Tout homme sensé ne peut s'empêcher à un moment de son existence de s'arrêter, permettez-moi la répétition, de se poser des questions à caractère existentiel. Pourquoi j'existe? D'où vient l'homme? Et après la cessation de tout principe de vie, où va l'homme? Tout homme sensé est appelé un jour à se poser cette question. Qu'est-ce donc l'homme? Est-ce juste un pèlerin que Dieu envoie sur terre et qui passe par les cycles de la vie, naissance, croissance, vieillissement, et puis qui sort de la vie par les chemins de la mort, les uns vivant un peu plus longtemps, les autres moins? Qu'est-ce donc l'homme? Pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été envoyé sur terre? L'homme, créature merveilleuse, mais aussi créature spéciale. L'homme qui se trouve au bon milieu des deux échelles, il est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'homme qui semble être le bouquet final, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. L'homme, c'est être différent de toute autre créature qui existe. Différent par ce qu'il est, différent par ce qu'il fait, différent par les aptitudes et les capacités qui sont attachées à sa personne. L'homme, un être particulier. L'homme, capable de réfléchir, capable de penser, capable de partir de ce qui n'est pas concret pour créer les concrets. L'homme, un être merveilleux. Mais d'où nous viennent toutes ces aptitudes? D'où nous viennent toutes ces capacités? Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial dans toute la création? Pourquoi n'est-il pas aussi bas que les chiens? Pourquoi n'est-il pas aussi insignifiant que les vers de terre? Pourquoi n'a-t-il pas aussi d'importance, je ne sais pas moi, qu'une moustique, qu'une mouche? Pourquoi? Pourquoi l'homme? David, le psalmiste, en réfléchissant sur le pourquoi de la présence de cette créature spéciale appelée homme, ne s'est empêché de prendre comme référence pour essayer de comprendre ce qu'était l'homme. Il a pris l'univers. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il regarde, il voit l'infiniment grand. Il considère cet univers que nous pouvons, avec nos yeux, mieux encore, avec des appareils que les astronomes peuvent utiliser, et voir toute la beauté, toute la grandeur de cet univers infini qui nous entoure. Et subitement, il y a comme un sentiment de petitesse qui l'envahit. Les astronautes qui sont allés sur la Lune, Ils ont vu la Terre comme une petite boule. Une boule insignifiante par rapport à tout ce qu'il y a encore comme astres, étoiles et au autre galaxie. Qu'est-ce donc l'homme? Il s'est trouvé tout petit. Comment ne pas se trouver insignifiant? Comme je le disais, quand on se trouve devant un univers tellement grand, dont on ne peut scruter ni les débuts, ni la fin. Comment ne pas se trouver insignifiant quand on prend conscience que l'on habite une planète appelée Terre, mais aussi environnée d'autres planètes, 8 semble-t-il, du moins dans notre système solaire. Comment ne pas se sentir tout petit quand la science nous explique que dans le système solaire, il y a le Soleil au centre et il y a 9 planètes alignées et ces planètes tournent d'abord autour d'elles-mêmes, mais en même temps, elles tournent aussi autour du Soleil, avec un ordre que je ne peux comprendre et que je ne fais que constater, avec des lois établies depuis des milliards d'années, et aucune de ces lois, aucun de ces principes n'a été remise en question. Comment comprendre qu'une boule appelée Terre soit suspendue quelque part sans qu'il y ait de cordes pour la tenir? Comment comprendre cela? Comment expliquer? Et il dit, qu'est-ce donc l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et ces planètes qui constituent notre système solaire, les unes sont très rapprochées du Soleil, les autres sont éloignées. Les deux planètes les plus rapprochées du Soleil sont Mercure et Vénus. Et écoutez les distances pharaoniques. Mercure est éloigné du Soleil de 58 millions de kilomètres. Et Vénus de 108 millions de kilomètres. Et la Terre où vous et moi nous habitons, où nous sommes citoyens, est éloignée du Soleil de 150 millions de kilomètres. Les scientifiques disent, si la Terre était un peu plus éloignée, il y aurait une possibilité qu'il y ait principe de vie ici sur Terre. Même 155 millions. Et si la Terre était un peu plus rapprochée, 145 ou 140 millions, nous serions en train de calciner. La Terre a été placée au bon endroit par qui? Par un Dieu créateur. C'est pour cela que je me moque de ceux qui se disent athées. Un homme qui a été fragile, un petit embryon dans le ventre d'une femme, et qui est né un jour, qui n'arrivait pas à se tenir debout, incapable d'être équilibré, et qui un beau jour a commencé à faire ses tout premiers pas pour essayer de marcher. Et puis qui va à l'école primaire, on lui apprend 1 plus 1, il dit d'abord égale 8. Et puis petit à petit, il commence à maîtriser. Les connaissances augmentent, il connaît un peu la géométrie. Ça augmente, il connaît un peu la trigonométrie. Il étudie tout ça, il dit, vu que, entendu que, il n'y a pas de Dieu, sottise! Sottise. J'aime beaucoup ce qu'un homme docteur en science nucléaire a dit un jour, il dit, un peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup vous y ramène. Plus vous scrutez le monde, plus vous scrutez tout ce qui nous entoure, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas sincère, vous allez dire, bon, je ne vais pas citer le nom de Dieu, mais vous direz, il y a une intelligence suprême au-dessus de tout. Parce que vous refusez de reconnaître qu'il y a un Dieu. Dites-moi un peu, est-ce que cet ordre, c'est le fruit du hasard? J'aime bien l'effort des hommes, ils aiment expliquer. Le monde a été conçu par un Big Bang. Il y a eu ceci, tout était ensemble, puis il y a eu une explosion. Mais pourquoi il n'y a plus d'autres explosions? Pourquoi ça a été la dernière? Non, l'homme a été une algue protoplasmique sortant de l'eau. Les besoins créant l'organe, les jambes sont sorties. Et puis il a commencé à marcher courbé. Et puis petit à petit, oh là là, acha. Il y a un Dieu. Un Dieu qui contrôle tout. Un Dieu qui dirige tout. Les scientifiques disent, au-delà de notre système solaire, il est possible qu'il y ait d'autres systèmes solaires. Durant plusieurs années, on a supposé, il est possible qu'il y ait des gens sur Mars. Non, on a vu des engins, des ovnis, voilà. Ah, Seigneur, aide-nous. Ça, c'est l'observation du psalmiste. Il s'est dit, quand je lève les yeux, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il dit, qu'est-ce donc l'homme? Ça veut dire, il y a des choses qui m'échappent, que je ne sais saisir et comprendre. Je me vois là avec ma masse. J'ai des poumons, j'ai un cœur, j'ai tout un système qui pompe le sang. Mais quand je vois la petite fourmi, je me dis, elle a aussi un cœur. Elle a des poumons, des intestins, système respiratoire. Il y a un Dieu. Il y a des choses que je ne sais comprendre. Des choses que ces arbres dégagent, parce que les arbres n'en ont pas besoin, mais qui sont profitables pour vous et moi. Et ce que nous, vous et moi, nous dégageons, ces arbres les utilisent. Et vous dites que c'est le hasard scientifique. J'aime beaucoup un livre que j'ai lu au début de ma foi. Ce livre était intitulé « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Et cela est vrai. Il faut avoir une quantité de foi suffisante pour être athée. Venir et voir cette chair bien faite avec des lignes et vous dites non, il n'y a eu personne à la base. Cette chair est venue de nulle part. Boum. Avec tout ce qui est en principe, cette partie va soutenir l'autre. David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il se sent tout petit, dit, qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce donc le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mais quand le même psalmiste observe aussi sur la terre, il voit tout autour de lui des choses ineffables, des choses que le vocabulaire le plus précis, le plus exquis et la phraseologie la plus élaborée ne peuvent exprimer. Il est sans parole. Que dire du balai des saisons? Les saisons qui partent et qui reviennent avec un ordre. J'aime quand le psalmiste dit, tu as arrêté l'orgueil et le flot des océans en leur disant, vous irez de là. Jusque-là, pas plus loin. Et il a utilisé des choses faibles, des grains de sable, toutes petites, insignifiantes, entassées les unes sur les autres pour arrêter l'orgueil des eaux. Le Dieu grand et redoutable. Que dire quand vous vous retrouvez devant l'immensité de l'océan ou de la mer? J'étais à Mwanda, j'ai essayé de scruter l'horizon. Je me dis, d'où viennent ces eaux? Où vont-elles? Et pourquoi? Quand vous contemplez les montagnes, les chaînes des montagnes, des grottes, quand vous allez du côté du Mayombe, vous voyez toutes ces choses. Quand vous allez à l'est, à Goma, à Bukavu, vous voyez toutes ces belles montagnes, vous voyez toutes ces constructions divines. Vous êtes sans parole. Quand vous voyez combien notre flore change au fil des saisons. Et que vous partez d'un coin du monde à un autre selon le climat, vous voyez toute cette diversité. Romains chapitre 1, verset 20. La Bible déclare, en effet, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, on les considère dans ses ouvrages. La grandeur de Dieu est visible à nos yeux. Et les hommes ne veulent pas reconnaître cela. Les hommes ne veulent pas considérer cela. Le psaume 19, verset 2, le psalmiste dit aussi, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous savez, quand vous lisez le livre de Genèse, il y a trois choses importantes qui sont dites dès le début. La première des choses, la Bible affirme l'existence de Dieu. La Bible ne veut ni discuter, ni démontrer, ni essayer d'expliquer. La toute première phrase de la Bible dit, au commencement, Dieu. avant que le temps linéaire ne puisse exister, il y avait Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Quelqu'un a dit, la première page de la Bible, et mieux encore, la première phrase de la Bible sont les vérités les plus combattues. Parce que c'est dès là que tout commence. Au commencement, Dieu et l'homme, être faible, aime à lutter avec cette vérité. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, reconnaître qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu au-dessus de tout, reconnaître que ce Dieu avait une pensée en créant l'homme. C'est reconnaître que ce Dieu avait un projet. Et reconnaître que l'homme est redevable vis-à-vis de ce Dieu. Voilà pourquoi l'homme ne veut rendre des comptes à personne. C'est pour cela qu'il me dit cette évidence qu'il y a un Dieu. Première vérité, Dieu, au commencement de toutes choses. Et puis de deux, Dieu est le maître de la création. Genèse nous dit chaque fois, et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit, il a créé le matériel par la parole. Comment l'immatériel peut-elle appeler à l'existence le matériel et concret? Mystère qui m'échappe, des vérités qui sont au-dessus de ma portée, mais que j'essaie tant soit peu, moi faible créature, d'essayer d'exprimer. Et puis troisième vérité, autant Dieu créateur, mais l'homme est créé par Dieu. L'homme n'est ni le fruit de l'évolution, ni le fruit du hasard. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu, en créant l'homme, il a créé différemment. J'aime beaucoup. Les cinq premiers jours de la création, chaque fois il est dit, et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Mais quand vient l'homme, la Bible dit, j'aimerais qu'on y revienne. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et là apparaît une vérité inéluctable qu'il y a plus d'une personne en Dieu. La pluralité dans l'unité. Contrairement aux autres jours de la création, où il semble subitement Dieu appelle à l'existence. Mais quand il a s'agi de l'homme, il y a eu un conseil. Et Moïse, qui a écrit sous l'inspiration de Dieu, nous donne juste les quelques mots que le Saint-Esprit a su mettre dans son cœur, qui a eu un conseil. Nous voulons faire un être spécial. Nous voulons faire un être particulier. Quand l'éléphant a été créé, il n'y a pas eu de conseil. Quand les chiens, les lions, pas de conseil. Mais quand l'homme, le summum de la création, le bouquet final, un conseil a été tenu. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il soit comme nous. En quoi est cette ressemblance? Et puis il est dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Contrairement aux autres jours de la création, quand il s'agit de l'homme, la Bible dit l'Éternel forma de la poussière. Et j'aime la suite. Qui n'a pas été faite avec les autres. La Bible dit il souffla. Il y a eu du divin qui est rentré dans cette masse. Et la Bible dit et l'homme devint une âme vivante. C'est cette chose venue de Dieu qui a donné la primauté à l'homme sur toute la création. Qui a donné à l'homme une position élevée. C'est pourquoi le psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il est presque ton égal. Il est capable de faire les choses que toi tu as fait. Et le psalmiste ajoute, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné une aptitude que les autres créatures n'ont pas. Et le psalmiste termine en disant, tu lui as donné la domination, c'est-à-dire l'autorité, sur les œuvres de tes mains. et tu as tout mis sous ses pieds. Regardez les choses fantastiques que l'homme peut faire. En temps normal, l'homme peut craindre les lions, peut craindre les léopards, peut craindre toutes ces bêtes féroces. Mais le même homme est capable de dompter ces créatures. Je suis étonné quand je vois dans des cirques un homme commander un lion. Je dis, ouf! Un homme diriger un léopard. Moi, j'ai mon épouse, malgré sa foi, elle a des problèmes avec les cancres. Là, quand elle voit Jésus. Je disais ici, il y a quelque temps, nous sommes allés évangéliser un jour avec un jeune homme. On est arrivé, on voulait juste rentrer dans la parcelle. Nous sommes rendus compte qu'il y avait un très gros chien. Vous savez, les jeunes gens, quand ils ont 16, 17 ans, ils sont très zélés. Moi, je commençais à reculer. Il a dit, non, pasteur, la Bible dit, marcheront sous les serpents et les scorpions. Mais les jeunes hommes qui étaient à côté, ils connaissaient bien sa Bible. Il dit, on n'a pas cité les chiens. Il a tout mis sous ses pieds. Il a rendu l'homme capable de dompter. Je suis allé dans un pays de l'Afrique australe, un pays où il y avait sécheresse. On a invité un homme qui est venu des États-Unis, on l'appelait Rainmaker, le fabricant de la pluie. Des gens qui peuvent, avec des procédés scientifiques, bombarder des nuages pour qu'il puisse y avoir pluie. Dieu a mis dans l'homme des choses fantastiques. Je suis allé dans un certain pays, congolais, je suis habitué à ces choses. Et l'on m'a dit, non, non, ici, vous n'avez pas besoin de vous servir, vous appuyer, et puis la nourriture va sortir. Vous savez, je n'avais pas faim. Je voulais simplement voir toutes ces choses. J'ai appuyé, puis j'ai vu des mains, tout. J'ai dit, ouf! Dieu a mis dans l'homme des choses fantastiques. L'homme est capable de faire des choses. Il est ici sur terre, il peut s'imaginer cet astre qui est là est à des tels millions de kilomètres. Comment tu l'es? C'est ce que tu as été. Capable d'envoyer des engins qui sortent de l'atmosphère, qui partent et qui reviennent. Capable de connaître là où je vais envoyer cet engin, la vie doit être comme ça. Alors la matière qu'il faudra mettre, c'est telle matière pour que Dieu a donné à l'homme capacité fantastique. Et le plan et le projet de Dieu, c'était que l'homme domine sur tout. Que l'homme puisse perpétuer l'œuvre de la création. Que l'homme continue le travail que Dieu avait commencé. C'était la vocation et la destinée que Dieu lui avait accordée. Il lui a dit, assujettis, domine, transforme la nature qui est tout autour de toi. Mais voilà, un jour une tragédie est arrivée. Une tragédie est arrivée. Cet homme que Dieu avait placé au-dessus de tout, cet homme à qui Dieu avait donné une vocation et une destinée spéciale, s'est laissé avoir. L'Éternel lui avait dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Un commandement. Mais derrière le commandement, il donne même les conséquences. Vous savez, il y a un principe de droit qui dit, pas de peine sans la loi. Et Dieu est un bon juriste. Dieu établit d'abord la loi, afin qu'il puisse avoir une base juridique pour sévir quand il faudra sévir. Les jours où tu en mangeras, tu... Pasteur Vernon a beaucoup prêché quand je suis rentré de Nairobi sur une série que j'ai beaucoup aimée. Il a prêché un jour, un dimanche, il a dit, les défendus à tir. Tout ce que l'on interdit, on aimerait savoir pourquoi on l'interdit. Tu vas mourir. La mort, ce n'était qu'un mot pour Adam et Ève. Ils ont connu à la fois les commandements, mais ils ont aussi connu la conséquence. Mais pouvaient-ils comprendre la mort alors que Dieu leur parlait? Sûrement entre eux, ils se disaient, mais ce qu'il dit la mort, c'est quoi? Vous et moi, aujourd'hui, nous connaissons la mort et nous pouvons nous imaginer Mais eux, c'était une réalité inconnue. Quand il dit nous allons mourir, c'est quoi? Exactement. Mais la pensée cachée derrière, c'est premièrement la mort spirituelle. L'éloignement d'avec Dieu, la séparation d'avec Dieu, le brisement de la communion. Mais la deuxième pensée aussi, c'était la cessation de tout principe de vie. Et ils ont vécu les deux choses. Premièrement, quand ils ont mangé les fruits défendus, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Et ils commencèrent à se cacher, et qui étaient habitués à la communion avec Dieu. La Bible dit même l'éternel Dieu descendait chaque soir pour avoir communion avec eux. Dieu s'est rendu compte que l'homme et la femme étaient comme un fusée sorti de son orbite. Un avion téléguidé que l'on ne sait plus conduire. On essaye bien d'appuyer pour dire, reviens dans sur ta trajectoire, mais on se rend compte, il n'obéit plus. Et quand Dieu s'adresse à l'homme, il lui pose une question, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'Adam a dévié. Adam est sorti du cadre prévu. Et cette phrase, vous savez, la Bible ne nous parle pas des temps utilisés. Je me pose la question, quel était le temps que Dieu avait utilisé? Un temps de quelqu'un qui est fâché. Où es-tu? Mais j'essaie de m'imaginer, il devait y avoir beaucoup de tristesse. On prit un coup. Et l'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden. La Bible dit qu'ils ont été sortis du jardin et l'on a placé un être céleste pour les empêcher de revenir. Vous savez, des fois, il y a de la folie dans nos actes. Et nous ne réalisons la folie de nos actes que plus tard. Quelqu'un a dit nos choix et nos décisions gouvernent toute notre vie. Mais quelqu'un d'autre a ajouté, le temps, c'est le paramètre par excellence pour nous démontrer la justesse ou la bêtise cachée derrière nos choix. Il y a des choses que nous faisons comme par folie, un coup de folie. Je veux faire ceci, je veux faire... On croit être dans le vrai. Et ce n'est qu'après quelques temps qu'on se rend compte qu'on est passé à côté. Et l'une des choses qui tue, c'est la culpabilité et les remords. J'ai souvent entendu cette phrase en tant que pasteur au bureau, des hommes qui viennent dire « si j'avais su, si j'avais su, si c'était à refaire ». Éloignés de la présence de Dieu, déviant de cette merveilleuse trajectoire placée par Dieu. Là, c'était la mort spirituelle. Mais des années plus tard, alors que la mort physique ne les avait pas atteints, ils ont expérimenté la vérité cachée derrière ces paroles de Dieu. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Quelqu'un est venu sûrement leur dire, venez voir, nous avons retrouvé Abel, le corps gisant dans le sang, la tête fracassée. Et ils sont arrivés, ils ont vu cet enfant qu'ils ont aimé. Ils l'ont vu plusieurs fois dormir et se réveiller. Ils n'avaient jamais connu, expérimenté ça. Ils ont essayé de les soulever, la vie n'était plus là. Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Le commandement de Dieu est devenu vérité. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, en ces jours, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et il est le moissonnera. Combien en tant que pasteur, j'ai souvent parlé avec des hommes, des femmes au bureau. Je revois encore cette jeune fille, 17 ans et demi, séropositive. Entraînée par un homme parce que papa ne peut payer les études, maman ne peut, papa ne peut m'habiller. Mais entre-temps, il y a des hommes pour qui, semble-t-il, je représente une bonne partie. Qui sont prêts à tout, venez, invitation, un repas au resto, avant de partir, $100 pour les transports. Vous savez, ces gens en général sont des investisseurs. Ils donnent pour préparer les terrains. Un jour, ils vont vous demander l'addition. Et quand ils ont tellement investi, vous avez difficile à dire non. Et puis, elle m'a dit, nous sommes allés une fois, deux fois, trois fois. Je ne sais plus compter. Et vous savez, ces nouvelles qui viennent de nulle part, mais de partout aussi à la fois. Il paraît que cet homme serait malade d'eux. L'une des femmes avec laquelle elle a vécu serait morte et deux. Vous ne savez pas qui a dit, mais vous savez quand même. Jeune fille, gardez-vous. Si vous devez même noircir le visage, noircissez. Comme les Quinois disent ici, les choses qu'on appelle comme la géographie. Ainsi, ça doit te sortir aux jambes et bima. Mais garde-toi. Il y a des jeunes filles qui, au nom du transport, quittaient l'IPEN pour aller en ville. Sont prêtes à tout. 17 ans et demi. Mais déjà les grands de la mort dedans. Que dire de cet homme qui est venu me parler en pleurant? Du reste, il est même déjà mort. Il dit, pasteur, cela fait une année que je connais le Seigneur. J'ai une grande culpabilité. J'ai contaminé au moins une cinquantaine de jeunes filles dans les quartiers où j'habitais. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais je me disais, bon, elles aiment l'argent. Comme elles aiment l'argent, qu'elles puissent avoir et l'argent et ce qu'il y a derrière l'argent. C'est-à-dire, c'est que moi, j'ai dans mon corps. Jeune fille, la mort est dans les peaux. Ça ne s'écrit pas sur les visages. Adam et Ève ont retrouvé Abel sans vie. Ils ont compris. Et à partir de là, le règne de la mort est rentré. Vous savez, quand vous lisez Genèse 2, et même Genèse 4 plus loin, vous retrouvez chaque fois cette vérité. Tel engendra tel. Il vécut tel nombre d'années, et puis ça termine par toujours, et puis il mourut. Tel engendra tel, vécut tel nombre d'années, et puis il mourut. C'était le règne de la mort qui a été inauguré. Mais qu'est-ce qui a été la base? Un simple principe qui sévit et sévit encore aujourd'hui. Le péché. C'est seulement le péché qui a fait quitter à l'homme les standards pour lesquels Dieu l'a appelé pour avoir un standard au rabais. Dieu voulait de lui le maître, Dieu voulait de lui son représentant. Dieu a fait de lui quelqu'un à son image. Mais l'homme volontairement a cédé au diable. Et il est devenu assujetti au diable, assujetti à tout ce que le diable essaye et essaye encore de lui faire faire. Genèse chapitre 6, verset 5, nous parle du constat fait par le Créateur quelque temps après la chute de l'homme, l'aggravation de la plus grande maladie que le monde ait jamais connue. Et cette maladie que rien ni personne ne peut arrêter, cette maladie pour laquelle on n'a aucune panacée, si ce n'est le sang du Fils de Dieu, le péché. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, ou plutôt toutes les pensées de leur cœur, s'est portées chaque jour, et je suis étonné par ce que la Bible dit, uniquement vers le mal. Depuis la chute, l'homme est comme programmé pour le mal. L'homme ne peut que faire le mal. Tout le pousse à faire le mal. Non, je ne suis pas d'accord avec ce philosophe ou cet homme qui réfléchissait, qui disait l'homme n'est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Non, ce n'est pas vrai. L'homme est d'abord foncièrement mauvais. Je suis allé visiter une famille, j'en parlais au premier culte. Je vis un enfant de moins de 2 ans. Essayant de vouloir subtiliser une quantité de biscuits à sa mère, en essayant de la distraire, en disant, maman, et vous allez dire que les enfants sont des anges. Ça, c'est un ange, ça. Qui lui a appris ça? Est-ce qu'il y a une école où on met les tableaux, on apprend aux enfants à mentir? C'est dans le cœur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si je peux regarder en moi-même, si vous pouvez regarder en vous-même, vous pouvez voir la force du péché. Même l'homme converti sans ce dualisme, sans cette lutte. Paul a dit, je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Mais le mal que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de chair? Les pensées du cœur de l'homme, depuis la chute, les porte uniquement vers le mal. Il y a 5 choses qui sont attachées à la réalité du péché. La première des choses, c'est que le péché est un mal réel. Rien ni personne ne peut nier la réalité du péché. Je n'ai pas besoin même de regarder à l'extérieur. Je ne peux que regarder en moi pour voir toutes ces choses. Quand je pense à certaines choses que je fais surtout avant ma conversion, il y a des choses dont j'ai honte. Je me demande comment ai-je pu faire une telle chose. Le péché, c'est un mal réel. Il fait des ravages en nous et autour de nous. Il détruit la vie de celui qui les commet. Il détruit des familles, il détruit des péchés. Le péché est un mal réel. J'ai une image de cet homme marié mais qui n'a pas pu se contenir. Ce sont des choses qui se passent dans nos pays, dans nos familles. Et qui est allé avec la jeune sœur de son épouse. Il sait que ce n'est pas bien, il sait qu'il ne doit pas le faire. Mais il se limite à savoir que ce n'est pas bien. Et puis la jeune fille est tombée enceinte. Et puis ma femme ne doit pas savoir. Et puis il faut aller avorter quelque part. Vous savez, personne ne peut maîtriser le péché. Quelqu'un a dit, avec le péché, on ne sait pas dire, j'irai de là jusque là et puis je vais m'arrêter. C'est une réalité ingérable. Il nous amène toujours plus loin. Et la jeune fille est allée, elle est morte. Il dit, en rentrant, je ne sais ce que j'ai pu faire. Je me suis posé la question, je suis allé jeter le corps. Que des hommes qui vivent apparemment tranquilles, mais ont une conscience remplie. Et à cause de cela, ils boivent, ils se saoulent. Parce que la conscience est chargée. Des hommes qui bâtissent leur fortune sur les malheurs des autres. Des tueurs à gages. Pour éliminer, je ne sais pas moi, un adversaire politique ou que sais-je, prêt à aller. Prends ses petits riens, va mettre dans son verre. Il semble qu'il aime beaucoup boire. Et puis voilà, vous privez les enfants de cet homme. De leur père, ils n'ont plus quelqu'un pour souvenir aux besoins de leur vie. Sa femme amputée d'une force qui pouvait la soutenir. Et vous vivez calmement, je voudrais vous dire, il y a un Dieu qui rend justice. J'aime, et je voudrais vous dire, homme, même en regardant avec les yeux, la nature nous enseigne. Il y a des cours gratuits que la nature nous enseigne. Nous avons vu ensemble un homme dirigeait le Libéria avec une main de fer. Et nous avons suivi en mondovision cet homme torse nu, ventre bedonnant, ayant perdu le pouvoir. On est en train de lui couper une oreille. Ah! Mais c'est hier l'homme qui dominait tout. N'avons-nous pas vu le grand maréchal fuir comme un vulgaire voleur? L'homme fort au temps de sa jeunesse, affaibli par la maladie que le vent pouvait emporter. L'homme qui a vécu dans la grandeur, être enterré et à peine une dizaine de personnes. Il y a un Dieu. Cesse d'être orgueilleux. Cesse de te vanter. Combien le pouvoir obnubile certaines personnes. Le pouvoir fait gonfler certaines personnes. C'est notre temps, c'est notre époque. Il y a un Dieu. Il sait défaire et il sait mettre qui il le veut. N'avez-vous pas suivi les grands Ceausescu? Qui pouvait dire un mot devant lui? Mais quand Dieu a renversé les choses, soyez humbles, hommes. Avant vous, des grands, il y en a eu. Et vous passerez après vous, il y en aura. Vivez simplement. Quelqu'un a dit, quand tu montes par l'ascenseur, hein, arrange-toi d'être en bon terme avec ceux qui sont restés en bas. Parce qu'il est possible que tu redescendes. Alléluia. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'humilité. Il y a des gens, parce qu'ils atteignent, je ne sais pas moi, un certain sommet, ils ne saluent même plus les gens. Ce ne sont pas les gens de mon rang. Nous, on a l'avantage, on n'a pas changé de rang. Quand toi, tu vas changer, tu vas revenir, nous sommes là. Et l'avantage, c'est que nous, on est habitués. J'ai souvent vu ces gens quand ils tombent. Hein? Au départ, ils ont perdu tout, mais ils veulent maintenir un certain standing. Ils ont peu de moyens en réserve, mais parce qu'ils veulent maintenir un standing, ils dilapident tous les moyens. Mais à un moment, ils seront obligés de revenir à la réalité. Vivez simplement. Et surtout, craignez Dieu. Alléluia. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Le péché, c'est un mal réel. Deuxième vérité concernant le péché. Partout où il passe, il fait des dégâts. Il ne laisse rien intact. Quand il passe, là où il y a l'harmonie, les péchés transforment l'harmonie en cacophonie. Ils volent la joie pour semer la tristesse. Dans l'Ancien Testament, il est dit, ton péché t'atteindra. Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le péché, c'est un mal ravageur. Partout il passe, il fait des dégâts, il détruit. Le péché ne peut être quelque part et ne pas détruire. Le péché finit toujours, toujours, toujours par détruire. La Bible présente là le péché comme la lèpre. Enfin, un parallélisme. La lèpre, c'est une maladie insidieuse, déformante et mutilante. La lèpre, c'est une maladie indolore, c'est-à-dire on ne sent pas la douleur. Mais les ravages de la lèpre sont visibles. Les doigts se coupent, ça tombe. On ne sent rien, mais on voit les ravages. Il est possible de nier l'existence du péché, mais on ne peut que se rendre compte de l'évidence des conséquences de cette réalité. Troisième vérité concernant les péchés dégradent, les péchés avilissent, les péchés abaissent, et des fois amènent l'homme jusqu'au stade de l'animal. Et pourtant, Dieu, dans la vocation et la destinée qu'il avait pour l'homme, Dieu voulait les placer à un niveau élevé. Écoutez les médias aujourd'hui, vous entendrez parler des choses avilissantes. Suivez ce qui s'est passé en Belgique, des hommes élevés en responsabilité, mais on a découvert qu'ils vivaient dans la pédophilie. Et quand on les arrête, ils se cachent les visages, ils ne veulent pas qu'on puisse les voir. Mais quand ils faisaient ces choses, ils ne se cachaient pas. Les péchés abaissent. Les péchés réduisent même l'homme le plus grand au stade de l'animal. Je nous en supplie, ne jouons pas avec le péché. C'est un mal qui détruit partout où il passe. Que dire de l'homosexualité? Que dire des ravages? Aujourd'hui, des hommes sans cœur, même des pays, des nations, qui ne vivent que du sang des autres. Ils ont des usines et des industries d'armement. Et ils en fabriquent par milliers, par centaines. Et pour qu'eux vivent, les armes doivent être achetées. Et pour que les armes soient achetées, il doit y avoir des conflits. Et pour qu'il y ait des conflits, il faut que quelqu'un les provoque. Et des fois, ils sont derrière, des deux côtés. Allez, vas-y, ouloulou, combat-les. Ils retournent aussi de l'autre côté. Il faut acheter les armes les plus fortes et eux, ils vivent. Et nos enfants sont tués. Nos frères et sœurs sont traités et les gens s'engraissent. Il y a un Dieu. Quatrième et avant-dernière chose, le péché est un mal à la fois individuel, mais un mal aussi collectif. Si nous ouvrons les yeux, nous voyons les ravages du péché, à la fois dans nos vies, nous le voyons aussi tout autour de nous. La Bible dit, le péché, c'est la honte des nations. La dernière chose que j'aimerais dire à cette heure et pour terminer, c'est que le péché peut être vaincu. Et le péché a été vaincu au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Là où le premier Adam a perdu sa vocation, la destinée que Dieu lui avait confiée, Dieu merci, à l'an zéro parut le second Adam. Et quand le second Adam vint, il marcha et il passa outre toutes les tentations. Il a pu dire, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Et dès ce jour, par sa mort expiatoire sur la croix, il a inauguré une nouvelle ère qui fait qu'il y ait des gens vivant sous cette chair, venus après la chute, mais qui peuvent retrouver la destinée et la vocation que Dieu avait donnée au jardin d'Éden. hommes, femmes, vous qui êtes ici en séjour à 7 heures, vous qui avez été appelés à la grandeur, vous pour qui, le psalmiste a dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la magnificence et la gloire comme un manteau. Et tu as tout soumis à ses pieds. Êtes-vous sous la domination de ce mal? Est-ce que cette gangrène n'est-elle pas en train de vous ronger? Si oui, vous avez le choix de nier. Mais comme l'autruche, le fait de faire rentrer sa tête dans le sable et de nier la réalité qui vient n'arrange pas les problèmes. Ou soit alors reconnaître que ce mal pèse dans ma vie. Il est en train de me détruire. Et ça sera le chemin vers la restauration. Il a fait avec plusieurs qui sont ici, peuvent vous le dire, des hommes, des femmes, des jeunes gens, fils et garçons, qui peuvent vous dire ce que le grand Dieu a accompli. Il n'a pas changé. Baissons nos têtes dans la prière. J'ai parlé, puis je me rendais compte de l'inadéquation de mon vocabulaire, de ma petitesse, mais aussi de la grandeur des choses que je voulais mentionner. Ai-je pu partager quelque chose? Ai-je suffisamment communiqué pour que ton peuple connaisse, sente, réalise? Je n'en ai pas l'impression. C'est pourquoi je prie, au-delà de mes limites, soit par le Saint-Esprit, amplifie ces choses dans le cœur des hommes et des femmes. Là où il y a une parole en moins, ajoute. Là où il y a une parole en plus, enlève, s'il te plaît. Mais atteins tes objectifs dans le cœur des hommes et des femmes. Tu as créé l'infiniment grand, mais tu es aussi l'auteur de l'infiniment petit. Mais au beau milieu de ces deux échelles, tu as placé l'homme que je suis, que nous sommes. Mais voilà, le péché est venu et a pris place en nous. Nous a dégradés, nous a avilis. Plusieurs ne savent pas jusqu'où cette réalité domine en moi. Il y a des choses que je fais que les hommes ne connaissent pas, ne savent pas. Mais moi, je sais jusqu'où ce mal est en train de me tuer. Comme un cancer, il ne fait que prendre de la place. Seigneur, arrête cette gangrène afin que je retrouve la vocation et la destinée que tu as tracée pour moi. Y a-t-il un homme, une femme? Y a-t-il un jeune homme, une jeune fille? Que veut dire, pasteur, prie pour moi. Ce mal me ronge. Ce mal me détruit. Ce mal non seulement me fait mal, mais à cause de ce mal qui me fait mal, moi-même aussi je fais mal tout autour de moi. J'aimerais guérir. Merci pour la personne qui se lève déjà. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore d'autres qui veulent se lever? Merci. Merci. Merci encore. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de vous, vos transgressions. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il peut les rendre blancs comme la neige. Vous vous dites, je suis allé trop loin, pasteur. Tu parles du pardon, tu parles de la grâce. Tu ne sais pas les choses que j'ai faites. Non seulement je ne sais pas, mais en plus je ne veux pas savoir. Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a un Dieu qui pardonne. Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a un Dieu qui restaure. Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a un Dieu qui relève. Ce que je veux savoir, c'est qu'il peut vous redonner un nouveau départ. Ne voulez-vous pas vous lever, homme, femme, jeune homme, jeune fille? Père, je te les apporte. Plusieurs se sont levés. Non pas à cause de l'excellence de quelques discours, mais parce que tu as travaillé dans leur cœur. Et tu es mieux placé que moi pour savoir d'autres qui auraient dû se lever et qui, pour quelques raisons, sont assis. Ne les oublie pas aussi. Fais quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Et permets, Seigneur, que cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme, puisse rentrer dans le plan.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.